Sex and violence.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. 'Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horns.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme.
Bonsoir. Bienvenue sur Dégenrer, l'émission pour déranger. Ce soir, c'est une émission assez exceptionnelle puisque pour la première fois dans l'histoire de Dégenrer, depuis 5 ans, nous sommes 12 en studio. Et allez-y l'ambiance, quoi. Alors, deux techniciennes vont nous accompagner ce soir pour cette émission. Alors, si on est 12 ce soir, c'est parce qu'en fait, en ce moment, à Grenoble, quelque part, dans un squat, quelque part au fond de Grenoble, il y a une rencontre féministe, non mixte, entre femmes, lesbiennes, trans. Et cette rencontre s'appelle FFO. Alors, l'idée, c'était que, du coup, j'ai invité toutes les filles de FFO qui étaient là en ce moment à venir causer à la radio de pourquoi on est féministe aujourd'hui, quel sens ça a pour nous, pourquoi la non-mixité. C'est quoi notre histoire, chacune, par rapport à soi? On a toutes des histoires différentes, donc l'idée, c'est qu'on va en parler ce soir. Et peut-être, pour commencer, on pourrait raconter l'histoire de FFO. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui se sent de commencer à raconter cette belle histoire. Comment est née FFO? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? FFO, c'est un sigle. Que veulent dire ces trois lettres?
Je vais peut-être d'abord parler de... D'où ça vient, faut nous dire qu'est-ce que ça veut dire.
C'est comme tu veux.
Alors, c'est les deux caravanes féministes non mixtes qui ont eu lieu en 2005 et en 2007, qui ont été de la vie de toutes celles qui ont participé, quelque chose d'assez intense, quelque chose de vraiment un moment, puis en plus un moment qui dure un mois, donc... c'est un peu une autre dimension qu'une rencontre qui dure une semaine où on bouge pas, là bon, personne bouge, on voit des endroits, et puis bon, c'est des caravanes, notamment la seconde, qui ont servi, je sais pas si servi c'est le mot, mais à aussi parler de choses importantes. La seconde caravane, notamment, il y avait un thème qui était présenté dans les bourgs où les caravanes passaient sur les violences conjugales. Donc voilà, bon, c'est évidemment ces caravanes, du coup, à la fin, en tout cas moi j'étais surtout sur la seconde, hein, il y a beaucoup de choses accumulées, des choses vachement bien, puis des choses un peu plus trash. Et voilà, alors qu'on était réunis à la fin de la seconde caravane, donc chez une copine dans l'Ariège, et ben, je sais plus, moi j'ai peut-être reconstruit le moment, mais c'était un mot qui courait, c'était fuck off. Moi, il me semble que c'est quand même arrivé assez vite. À un moment, il y a eu une exaspération quelconque par rapport à des choses qui n'étaient pas là, puis quelque chose qui était là. Et voilà, c'est parti, fuck off. Et puis, comme on avait envie de se revoir, et ben, ça a été femme fuck off, FFO. Voilà. Et depuis, on s'est revu deux, trois fois.
Est-ce que vous avez envie de raconter un peu plus, cette caravane, ou la naissance de FFO? Vous avez écrit une charte, tout ça? Non. D'accord, ok. Brigitte, allez.
On peut parler un tout petit peu de la naissance de la caravane. La caravane permanente, c'est une structure qui existe, qui est anti-patriarcale, anticapitaliste, qui tourne tous les ans. Et il y a déjà eu 2 voyages en non-mixité. Donc cette année, c'était bi, trans. De toute façon, c'était féministe. Et c'était parti du désir d'un groupe qui s'appelle Femmes de plus de 50 ans. On se retrouve régulièrement tous les ans.
Tu peux nous parler un peu plus de ce groupe de femmes de plus de 50 ans? Comment il est né? Qu'est-ce que vous avez vécu?
Alors, il est né d'une façon bizarre. C'était un peu toutes les squatteuses là, du coin qui disaient « Ah, ce serait bien si vous voyez ma mère. Ah, ce serait bien si vous voyez avec ma mère. » Et puis, un jour, on a dit « on le fait. » C'est bien que c'est un groupe assez large parce qu'on n'a pas le même passé. On essaye un peu de chercher aussi comment on va fonctionner pour que les désirs de chacune... puisse être exprimée. Et on était quand même un certain nombre à désirer cette caravane, à se sentir un peu un arc féministe, avoir envie d'aller à la rencontre d'autres femmes. Donc, ce qu'on a fait en allant dans les villages, en passant des films. Et puis, c'est vrai que sur cette caravane, il s'est passé des choses vraiment importantes, intenses, et on avait envie de se revoir, quoi. Et c'est comme ça qu'est né FFO. C'est vraiment dans le désir de faire des choses ensemble. C'est-à-dire que pendant cette caravane, on a aussi essayé de s'attaquer à des problèmes que les copines avaient avec des mecs et qu'on a eu envie que ça continue. Et ça, c'est quand même un gros truc de notre charte. Notamment, avoir un camion frigorifique pour régler certains problèmes.
Il faudrait refroidir certaines personnes.
Et il me semble aussi qu'il y avait quand même le thème de la question intergénérationnelle qui était importante par rapport... Brigitte, tu peux peut-être nous raconter...
cette caravane voulait être intergénérationnelle, oui. Oui, notamment parce qu'on pense... Elle était intergénérationnelle. Les femmes qui ont gravité, c'est entre 16 à 61 ans. Ouais. Donc, il y a eu quand même un panel assez large. Et je pense que nous, dans notre groupe de femmes de plus de 50 ans, on est tout un groupe aussi à avoir vraiment envie de travailler sur la transmission, et notamment la transmission des luttes. Parce qu'on se dit que ça fait des centaines et des centaines d'années que des gens descendent dans la rue et qu'on a l'impression que chaque fois, les mouvements repartent à zéro ou qu'on n'a pas transmis nos erreurs, nos gains, ou ce qu'on avait vécu. Ça nous semble vraiment important que cette transmission existe. Et c'était aussi, pendant la caravane, un moment de transmission aussi, quoi.
Et alors, cette charte? Moi, je sais pas, vous l'avez écrite. On a oublié de l'amener aujourd'hui à cause de problèmes techniques, mais peut-être vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il y a écrit dedans. Qu'est-ce que ça dit?
Alors, c'est un peu difficile parce que c'est un peu loin et qu'on a oublié de l'amener et que du coup, on ne se souvient pas trop. Mais je crois qu'il y avait une envie, il y avait un grand passage sur la non-mixité et pourquoi on avait fait ce choix-là et ce que ça nous apportait. Je crois que c'était une bonne partie de ce texte. Et aussi essayer de poser, je pense, pas mal de thématiques, d'envie de réflexion sur ces questions de transmission générationnelle, sur la question des violences faites aux femmes en général. Sur le rapport au corps et du coup un peu de poser des trucs en se disant que voilà que c'est des réflexions de long terme et des choses qu'on reprendrait. Et puis je crois comme Brigitte elle disait essayer de mettre en avant ce truc de solidarité entre femmes et de comment on peut organiser concrètement un soutien collectif ou accompagner des femmes dans des démarches pas évidente dans leur rapport avec des hommes, leurs compagnons ou des milieux ou je ne sais quoi. Et puis je crois la dernière chose qui était importante, c'était cette affirmation politique double de féminisme et d'anarchisme en fait, et de se situer aussi dans une logique de on est féministe mais notre féminisme il nous amène à interroger tous les rapports de pouvoir et de domination et donc la domination capitaliste et les questions raciales et tout un tas de choses qui sont liées. Et voilà.
D'accord. Et donc on peut raconter que suite à cette caravane donc, qui a eu lieu l'été dernier, en 2007, à l'automne 2007, il y a eu les premières rencontres FFO, donc Femmes Fuck Off, qui ont eu lieu à Nantes, à Boultobois dans les Ardennes et à Nancy. Il s'est passé pas mal de choses pendant ces rencontres, alors peut-être on en parlera plus tard dans l'émission si on en a envie. Et donc là, c'est les deuxièmes rencontres FFO qui sont en ce moment à Grenoble et qui sont l'occasion de continuer ce travail de lien entre différentes féministes de différentes villes aussi. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de réseau un peu. Voilà. Alors, on n'a qu'à faire une petite pause musicale et puis... ouais. Et puis, Sam, tu choisis la chanson que tu veux qu'on écoute et puis on se retrouve tout à l'heure.
Juger, trier, caser, étiqueter,
identité dans la masse qui est tout,
cataloguer,
dans la
juger, tout, trier,
masse,
caser, étiqueter,
dans la masse,
cataloguer,
qui est tout, identité qui est tout, dans la masse, identité qui est tout, dans la masse, juger, trier, caser, étiqueter, identité dans la masse, cataloguer,
juger.
On vient d'écouter le groupe grenoblois Les Revengers, parce qu'on soutient la scène locale à dégenrer. Et un morceau qui s'appelait Je ne suis pas un pot de confiture. Voilà.
Donc toujours sur dégenrer, et alors tout à l'heure on parlait un peu de pourquoi FFO et tout, et Hiram, je crois, tu avais envie de préciser un petit truc sur pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte FFO ?
Ouais, alors. Voilà, du coup, le fait de se retrouver et tout ça, effectivement, il y a plein de projets qui sont politiques ou personnels ou des trucs comme ça, mais c'est surtout aussi, enfin, moi voilà, si je viens là, c'est surtout pour le plaisir de revoir des personnes avec qui je partage des idées ou avec qui je partage, je sais pas, des câlins ou des massages ou des discussions intimes ou des choses comme ça, et surtout, ouais, pour le plaisir de se voir et de partager des moments chouettes et de faire des actions qui nous font plutôt marrer.
Et ben moi, ça m'amène vraiment à cette question de la non-mixité. J'ai l'impression qu'elle est assez importante dans la définition de ces rencontres femmes fuck off. Et j'avais peut-être un peu envie de vous demander s'il y en a certaines qui ont envie de raconter comment elles en sont venues à se dire féministes, à comment elles ont découvert ce mot, féminisme, le féminisme radical et peut-être la non-mixité avec, au choix. Alors je me tourne vers Niette, est-ce que tu as envie de nous raconter ?
Oui, ça va. Moi j'ai une anecdote à raconter parce que ça me fait vraiment penser à ça. Tout comment j'ai posé le mot féminisme, le mot non-mix, tout ça en fait. Et ça me fait penser à il y a presque 2 ans, c'était l'AMP à Lyon. Et je m'y suis retrouvée un peu par hasard parce que je débarquais un peu là. J'étais venue en stop et on a dit avec un copain, allez on y va, ça va être trop bien. Et on est entrées et là c'était plein de filles dans le squat où on était logés. Plein de filles partout qui discutaient et tout. Et les débats, il y avait un planning qui était posé. Et les débats, c'était que des débats féministes ou presque. Et j'ai fait, waouh, c'est quoi ici ? Et je cherchais 2 copines. Et on est entrées et j'ai dit, bonjour, vous connaissez pas un tel et un tel ? Je les cherche, je sais pas où, trop où elles sont. Et on m'a dit, elles sont dans la pièce non mixte là-bas, en train de se faire des massages et tout. Et je fais, waouh ! Et je me souviens que je suis arrivée, que je suis rentrée et que j'ai laissé mon pote à l'extérieur, en fait, sans en fait m'en rendre compte. Je suis rentrée, je me suis posée, j'ai fait « Waouh, vous faites des massages dans un squat avec plein de filles, c'est trop bien ici !» Et je crois que voilà, et je crois que ça a tout changé. En plus, quand on est reparti, j'étais complètement embrumée dans ma tête. On avait eu des débats pendant 4 jours et j'étais là « Waouh, mais c'est quoi tout ça ? C'est quoi ? Je comprends plus rien. » Et j'avais mon copain qui était à côté de moi et qui était là « Ouais, de toute façon, les féministes, c'est toutes les mêmes. Elles sont vraiment trop reloues. Je me suis sentie trop mal pendant 3 jours. » J'étais là « Ah ouais, c'était pourtant vachement bien, en fait. » Et donc voilà, c'était ma petite anecdote.
Et suite à ça, t'as eu d'autres... Enfin, tu t'es engagée dans des choses, t'as commencé à vivre des choses non mixtes plus souvent ?
Pas tellement, en fait. Enfin, pas tellement dans le truc de vivre des choses non mixtes. Je crois que, en vrai, ma première expérience plus longue avec la non-mixité, c'était en novembre, parce que y a eu des choses genre le Lady Fest ou des trucs comme ça, mais où c'est moins un temps intime, en fait, avec les gens. Et du coup, c'est plutôt suite à ça, rapidement. Enfin, je crois que c'était 6 mois après qu'on a monté... Enfin, il y a des copines qui sont arrivées, qui ont dit « Hey, salut !» Copines quasi toutes présentes. « Vous voulez pas qu'on fasse ensemble des serviettes hygiéniques ? Ce serait vachement bien, en tissu. » Alors, on a fait un atelier couture, on a fait des serviettes hygiéniques. Et après, on a dit « Hey, ce serait super bien si on se revoyait, si on discutait, si on faisait un groupe féministe à Nancy. » On a dit « Ouais !» Et voilà.
Et comment il s'appelle, votre groupe à Nancy ?
C'est les Farfadettes. C'est un peu la classe.
Ça veut dire quelque chose ?
Ça veut dire formation d'anarcha féministe radicale, farouchement autonome et dissidente.
Vous auriez pas envie de nous raconter un peu l'histoire des Farfadettes ?
Bah, je crois que Niette vient de la raconter en fait. Où moi j'ai vraiment l'impression que ça a été un truc qu'on avait hyper envie, on se sentait bien ensemble et on avait envie de constituer un collectif qui soit un peu sous. Enfin. Où notre façon d'être ensemble et ce qu'on faisait, et ben, c'était hyper lié. Et où du coup, ouais, c'était un groupe affinitaire. Et nous, ça nous correspondait beaucoup plus qu'il soit non mixte. Parce qu'on se disait que ça facilitait la parole, qu'on ferait des choses. On avait envie de mener une lutte féministe. Et puis, donc voilà.
Et vous avez mené des actions à Nancy, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez, à part fabriquer des serviettes en tissu, c'est super, hein, mais vous faites d'autres choses.
Ben, je sais pas, on a fait, je crois qu'on a fait, après on a fait la distro, donc où il y avait pas mal de brochures, on a réuni les brochures, on a pris des abonnements chez le copiste et on a passé des après-midi à plier des feuilles. Et on a organisé des discussions aussi. On a organisé, on a fait des actions par rapport à des événements sur lesquels on voulait donner un regard féministe. On a fait tout ce qui est la panoplie de patchs, autocollants, t-shirts. Donc voilà.
On a fait un super happening aussi. Pour la Saint-Valentin, où on est sorties toutes les 5 habillées en noir avec des cœurs roses On avait bombé en carton partout sur nous en courant dans la ville en disant « La Saint-Valentin, c'est mal !» Comme ça, avec des grands fils, avec des gros cœurs roses partout, c'était trop bien.
D'accord, ça avait créé des réactions dans la ville ?
Non. Si, les gens, ils étaient... On avait tracté en même temps, en fait. On avait un super tract avec, d'un côté, un petit questionnaire et de l'autre côté, l'explication de pourquoi on faisait ça. Et il y avait des filles qui avaient le cœur brisé qui étaient trop d'accord avec nous. Ouais, vous avez raison, c'est vraiment trop nul. Mais autrement, c'était bien, ça crée de la discussion assez facilement, en fait. D'avoir un support comme ça, un truc drôle, genre des filles qui arrivent vers toi avec plein de cœur et un tract, je crois.
Ok. Est-ce que, moi je me dis, c'est un chouette récit d'un groupe féministe et d'une certaine façon de vivre une découverte du féminisme et de la non-mixité et tout, et je me demande s'il y en avait d'autres parmi vous qui avaient envie de nous raconter. Brigitte, est-ce que tu voudrais nous raconter comment tu as découvert, enfin, allez, depuis quand es-tu féministe, Brigitte ?
L'étiquette, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans les années 73, 74, 72, 60, on était toutes dans la rue pour l'avortement, pour les trucs de contraception. Pas notamment pour ça. Après, il y avait aussi des lectures, des livres, des discussions. Puis après, moi, j'ai fait une petite pause un peu longue de 20 ans que je ne souhaite à personne. C'est pas peine de vous enfermer à la campagne en couple. C'est pas terrible pour le féminisme. Puis par contre, quand j'en suis là, quand je suis sortie de cette histoire, j'ai eu la chance de rencontrer un tas de gens aussi qui sont ici, un tas de femmes. Et notamment cette caravane non mixte, v'là 2 ans, qui a été hyper importante pour moi, où j'ai vécu des trucs vraiment intenses, où j'ai vraiment redécouvert le féminisme et la non-mixité. Et vraiment, moi, j'ai un seul mot vis-à-vis de la non-mixité, c'est reposant. Mais à chaque rencontre, je rentre chez moi complètement crevée. Mais n'empêche, c'est quand même reposant. Pour un coup, on a du temps pour nous.
Tu veux pas expliquer un peu plus en quoi tu dis que c'est ce mot reposant ? C'est quoi ?
Je ne sais pas, le fait d'avoir du temps pour nous, de ne pas être toujours à porter les mecs, c'est terrible quoi, de les avoir toujours sur le dos, soit parce qu'ils vont nous montrer ce qu'ils savent faire et que nous, on ne sait pas, soit parce qu'ils prennent la parole et que nous, on ne peut pas parler, soit parce qu'il faut les porter parce qu'ils ne savent pas faire la sauce blanche. Et d'un seul coup, on a du temps pour nous. Alors, je ne vais pas dire que tout se passe bien dans mixité. Évidemment, il y a des trucs, des fois, ça chie aussi. Il y a des fois où il y a des... Mais au moins, on l'a pour nous, pour en discuter... Oui, c'est du temps pour nous, c'est pour ça que c'est reposant. Mais c'est très fatigant parce qu'on se couche très tard et qu'on se lève très tôt.
Bon, ça apporte plein d'énergie.
Qu'est-ce que tu dis, Ram ?
Je dis, mais bon, ça, c'est fatigant, mais ça apporte plein d'énergie.
Oui.
Toi, c'est comment, Iram, que tu as découvert
un petit résumé. La première fois que j'ai découvert la non-mixité, enfin, un rassemblement non-mixte, j'étais trop impressionnée. C'était à Dijon, il y a 3 ans. Et là, j'étais là, et je me sentais trop ridicule. Tout le monde parlait de brochures que je n'avais jamais lues. Et puis, avoir des enfants, c'était pas trop bien vu. Et moi, j'avais 2 gamins, alors j'étais pas trop bien. Et puis, il y avait plein de gens et puis, qui disaient des trucs formidables. Il y avait plein de monde. Je sais pas, il y avait 60 nanas à peu près. Je sais pas, il y avait trop de personnes. Bon, c'était très impressionnant, mais... Génial. Voilà, il y a eu de l'autodéfense, ouais, il y a eu plein de trucs. Il y avait plein de possibilités de faire plein de trucs et de rencontrer des personnes bien différemment. Et voilà, et c'est pas parce que c'est un rassemblement non mixte que toutes les nanas c'est les mêmes. C'est pas parce qu'il y a des lesbiennes que toutes les lesbiennes c'est les mêmes. Voilà, enfin voilà. Du coup, c'est classe.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de raconter Ouais, viens, Judith, prends le micro.
Alors moi, je vais peut-être d'abord raconter comment j'ai rencontré le féminisme. Et la non-mixité, c'est venu un peu après. En fait, donc, moi, je suis de Strasbourg et y a eu un campement No Border. Je crois que c'était en 2001 ou en 2002, je ne sais plus. Et à ce moment-là, moi, je me posais pas trop de questions sur tout ce qui est féministe. Et il y avait quelques féministes, en fait... à ce campement, dont Sacha d'ailleurs qui est souvent à la radio, etc. Et on est quelques Strasbourgeois, ça nous a énormément marqué. Et à partir de là, on a monté, alors je crois que c'était d'abord en parallèle, il y a eu 2 groupes de femmes non mixtes qui se sont créés à peu près dans l'année qui a suivi. Puis on a fini par se rejoindre. Parce qu'il y a un groupe qui était plutôt informel, dans lequel moi j'étais, et d'autres filles ont créé le groupe Scumaline, que moi j'ai rejoint deux ans plus tard. Et donc, oui, là, ben, donc ça c'était une expérience de la non-mixité. Et en fait, à chaque fois qu'on se retrouve à devoir expliquer quel est l'intérêt de la non-mixité, j'ai toujours envie de dire, mais en fait, tant qu'on n'a pas essayé, c'est difficile de se rendre compte, parce que voilà, c'est un truc, une fois qu'on a commencé, enfin moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'une fois que... Maintenant que je connais ça, bah c'est, ouais, je ne peux pas m'en passer. Enfin, c'est nécessaire. Quoi. Donc,
c'est pourquoi c'est nécessaire ?
Parce que ça fait du bien, bah, déjà, de ne pas tout le temps devoir réinventer le stylo, d'avoir l'impression de ne pas être dingue quand on raconte quelque chose qu'on ressent ou qu'on croit qu'on est dingue, et d'avoir en face de moi des filles qui me disent « Ah, mais tiens, mais moi, j'ai ressenti la même chose dans telle situation. » et puis aussi, ben, quand on a envie d'avancer, je sais pas si on réfléchit, que ce soit des choses, voilà, souvent c'est des choses pas très drôles, mais si on avait envie d'avancer sur des rapports de violence ou de réfléchir, de pas être obligé de réexpliquer, de se justifier tout le temps. Parce qu'on, dès qu'il y a des hommes, on est obligé de le faire, quoi. Donc voilà.
Ouais, du coup, j'étais en train de me dire, ouais, aussi, je fais un peu de mécanique auto, et du coup, depuis une quinzaine d'années. Et avant, bah, je savais pas ce que c'était de faire de la mécanique sans combattre avec l'autre pour pouvoir tenir le tournevis. Je ne connaissais pas ça, donc je pouvais pas me dire que ça pouvait être mieux ailleurs, puisque ça n'existait pas. Et un jour, j'ai fait de la mécanique, bah, je pense, c'est à cette semaine non mixte à Dijon. Je fais de la mécanique avec des filles. Et ben, il y avait un autre chose, il y avait un autre contact. Enfin, il y a vraiment. Ouais, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et aussi dans le respect de comment l'autre. Enfin, je sais pas, dans l'écoute et dans l'échange surtout. Voilà.
Du coup, on n'a qu'à faire une petite pause musicale. Sam, je suis sûre que tu nous avais prévu un super morceau.
Alors, ouais, on va écouter un petit morceau de L7. Ça s'enchaîne assez bien avec la mécanique, parce que c'est le morceau qui s'appelle Shirley Maldoney. C'est le nom d'une femme qui a remporté plusieurs courses automobiles aux États-Unis dans les années 60.
Welcome the first lady to try and qualify in an A dragster for an NHRA competition, Shirley Maldoney. Cha-cha, call it cha-cha.
Toujours à l'écoute de Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Ce soir, c'est une émission un peu particulière où il y a beaucoup de monde en studio. En même temps, c'est pas toujours facile de prendre le micro et de parler et puis de s'organiser comme on répartit la parole. Alors, il y a des blancs le temps qu'on comprenne qui parle ou quoi, mais on prend le temps et on a plein de choses à se raconter. Et du coup, on continue un peu à se raconter nos histoires personnelles, nos trajectoires par rapport au féminisme et notamment à cette pratique de la non-mixité qui n'est pas si évidente dans comment elle est perçue en général. Donc c'est assez intéressant, je trouve, d'entendre toutes ces histoires. Et Judith, tu voulais peut-être nous... Edith, je suis désolée. Tu voulais peut-être nous raconter...
Comment j'en suis venue au féminisme ? Alors, en fait, je l'ai formulé... je trouve que je l'ai formulé assez tard, puisque cette conscience-là, elle est venue à la faculté, dans le cadre de mes cours de sociaux, où j'ai vraiment pris conscience des inégalités sociales, justement de la position toujours inégalitaire des femmes dans notre société. Et à partir du moment où j'ai eu cette conscience féministe, je me suis un peu culpabilisée à me demander pourquoi je ne l'avais pas eu plus tôt, pourquoi ça ne m'avait pas... je me l'étais... Enfin, je n'avais pas pris conscience de toutes ces violences-là, toutes les violences faites aux femmes. Et j'ai essayé un peu d'y répondre... Dans mon adolescence, ce qui me scandalisait le plus, c'était plutôt des rapports de classe sociale. Et au niveau familial, je suis issue d'une famille où il n'y a que des femmes. Je n'ai que des sœurs, que des grand-mères, que des tantes. Donc, au final, pas dans mon milieu familial. On ne m'a pas transmis de revendications féministes. Je n'ai pas subi des situations scandaleuses à ce niveau-là, en fait. Et donc, par rapport à la non-mixité, donc je me suis dit féministe étudiante, par rapport à la non-mixité, au début, ça allait pas de soi, en fait. Et puis, au final, j'y ai goûté. Je trouve que c'est très facile à vivre. C'est un peu, comme disait tout le monde ici, des moments de liberté d'expression fou. Où il y a une parole libérée, un moment d'expression très, très intéressant à vivre. Donc voilà un peu mon histoire que j'ai un peu racontée rapidement et longuement aussi.
Non, pas si longuement ça. Vous savez, vous avez vraiment le temps de parler, de raconter. On a une heure et demie devant nous, donc il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que tu dis, Iram ? Rien. Moi, je me demandais, on en a un peu parlé, mais là encore, ce que tu disais, Edith, ça me faisait me poser la question de qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans nos vies ? Est-ce que ça a changé des choses ? Est-ce que vous avez envie de raconter ? Niette ? Tu veux pas raconter ?
En fait, je pense à quelque chose, mais j'ai toujours des anecdotes, mais en même temps, autrement, je sais pas quoi dire. Ça me fait penser à tout ce truc qu'on a, parce que, ici, dans cette pièce que vous ne voyez pas, on est trois à habiter dans la même maison et on vit en mixité. Et ça me fait vraiment penser à toute cette anecdote de la poubelle, en fait. Et j'y pensais hier. Parce que hier... Plume a pris la poubelle en disant « Mais qu'est-ce qu'on est bête, on la vide vraiment quand elle est trop pleine. » Elle l'a fermée, elle l'a descendue, elle est remontée, elle a pris sous l'évier un sac poubelle et elle l'a remis dans la poubelle. Ah, ça vous paraît logique ? Mais non, pas du tout. Puisque nous vivons avec des garçons qui réfléchissent manifestement à leur rôle de mâle et réfléchissent à déconstruire leur rapport au quotidien des femmes, mais qui ne comprennent pas le principe de la poubelle. Et par exemple, ça en vrai, quand on n'est que avec des garçons toute la semaine, eh ben c'est normal qu'on change la poubelle, parce que juste ils savent pas. changer la poubelle. Mais quand on est avec d'autres femmes et qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas la seule sur la planète à savoir changer une poubelle, on se dit qu'il y a un problème. Et chez nous, il y a eu des tests de fait. Hein. Les filles ont fait un test de laisser les poubelles traîner dans la cuisine un temps pour voir, en fait, juste pour voir. Sauf que moi, je n'étais pas au courant de cette... Cette petite stratégie. Du coup, au bout d'un moment, quand il y avait 4 poubelles dans la cuisine, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai sorti les 4 poubelles, mais pas les garçons. Donc voilà.
T'aurais dû les sortir, les garçons, pourtant.
Peut-être tu sortirais les garçons.
Finalement, le féminisme, ça a changé quelque chose dans ta perception des poubelles.
Non, des garçons, en fait. Pas des poubelles. Oh, c'est pareil.
D'autres anecdotes comme ça sur des changements de perception du monde à partir de prise de conscience féministe ou
Ben, moi, je crois que j'ai une anecdote aussi de cohabitation, justement, parce que moi, j'ai vécu avec 4 garçons, donc dans un appartement. Et en fait, un jour, il y a une fille qui... Enfin, il y en a un qui est parti et c'est une fille qui l'a remplacé. Et je me suis rendu compte à quel point... Rien que ce changement d'une personne, ça a changé complètement tout l'équilibre de l'appartement si je faisais à manger, et ben elle venait et elle se, enfin, sa réflexion dans sa tête, c'était quand même, elle y va, je vais y aller. Et les mecs, leur réflexion, c'était eux, ils y vont pas, alors moi, je vais pas y aller. Et du coup, ça a vraiment tout changé pour moi. Et je crois que je me suis rendu compte de plein de choses sur moi, Ouais, et c'est, je pense que mon féminisme est vachement parti de du fait que je fréquentais en majorité des garçons et que je relationnais pas vraiment avec des filles. Et là, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire, du rapport différent et intéressant que je pouvais avoir avec des filles. Et je crois que c'est aussi là où j'ai découvert le mot féminisme, parce que du coup, c'était aussi des féministes que j'ai rencontrées. Et du coup, je pense que ça allait hyper dans la continuité avec toutes les réflexions que j'avais eues dans ce milieu militant, anarchiste, squat, etc. Et où du coup, c'est vraiment une façon de... Enfin, dans les rencontres non mixtes, quand on est en cohabitation avec juste des filles, on voit vraiment la différence sur le quotidien et ça correspond à l'anarchisme pour moi.
Alors justement, tu parles d'anarchisme et tout à l'heure aussi, au début de l'émission, il y a plusieurs qui sont définis comme anarcha-féministes ou... qu'on plaçait leur féminisme dans un contexte anarchiste. Donc, ma question, c'est comment vous articulez ce rapport entre le féminisme et l'anarchisme, et peut-être aussi comment vous arrivez à intégrer le féminisme dans l'anarchisme, ou l'anarchisme dans le féminisme. Enfin, est-ce que vous avez envie de raconter un peu des expériences de ça? J'ai l'impression qu'on est plusieurs là autour de cette table à avoir... à graviter dans cette mouvance-là et peut-être à avoir des choses à raconter. Lucie, tout à l'heure, tu disais que tu voulais peut-être raconter ça.
Ouais, mais je crois que c'est un peu, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit, d'un truc où pour moi, je fréquentais le milieu... j'ai rencontré pas mal de personnes d'un milieu... Anar à Nancy, et où du coup c'était pas mal masculin, où il y avait, je me souviens de ma première réunion où il y avait environ, enfin il y avait 20 mecs autour de la table, j'étais la plus jeune et j'étais la seule meuf, et d'un truc où je voyais pas du tout comment je pouvais être légitime là-dedans, et un truc où petit à petit, J'ai commencé à prendre une place, mais en même temps, c'était hyper différent d'amis mecs que j'avais. Et la parole que j'avais, il fallait que je la renforce beaucoup plus et que je développe toujours plus et que je trouve une légitimité, en fait. Et du coup, pour moi, l'anarchisme, c'est une notion d'essayer de rompre avec des rapports complètement inégaux et déséquilibrés, où il y a des personnes qui perdent là-dedans, où il y a des rapports de confrontation, des rapports de domination, des rapports absolument pas constructifs. Et pour moi, du coup, dans le féminisme, je trouve vraiment l'énergie pour avancer et l'envie, quoi. L'envie d'avancer et l'envie de faire des choses. Et parce que aussi, et ben, du coup, il y a eu toute une émulation quand on est ensemble et voilà, enfin, on se marre et c'est simple, en fait.
Il y a Marina qui me fait penser à une anecdote que j'ai dû lui raconter, du coup, puisqu'elle m'y fait penser, et qui est un peu liée à ce truc de milieu anarchiste qui, du coup, fait des efforts sur le sexisme et sur tout ça, mais pas exclusivement, parce qu'il y a tout un truc de spécialisation aussi dans cette anecdote, mais d'une fois où on avait fait une réunion, parce qu'il y allait avoir dans Nancy des gens qui allaient, des fascistes qui allaient manifester pour je sais plus quoi, ce que c'était, enfin bref, c'était la grande commémoration de l'année, genre attention. Et du coup, on se réunit, on fait tourner à une heure de rendez-vous, au local, on y va, tout cela. Et puis, ouais, y a, comme souvent, dès qu'on se dit qu'on fait une manifestation antifasciste, beaucoup de mecs dans la pièce. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et je me souviens que le jour-là, tous les mecs, ils étaient là. Ouais, regardez, on est 10 à la réunion, ça sert à rien, on n'y va pas, machin, c'est nul. Et que juste, bah, moi, j'étais venue à une réunion, c'était pas pour qu'on me dise qu'on faisait rien. Et que, voilà, alors du coup, j'ai dit, eh non, on y va, on peut faire une manif. Vous savez, le but, c'est pas de se taper dessus. Si on se tape pas dessus, c'est pas grave, on y va avec une banderole. Et on dit, eh, on n'est pas content. On n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Enfin, un truc d'être là, quoi qu'il arrive. Et que je me souviens d'un pote de là-bas qui mettait sa main sur mon épaule en me disant, mais non... Faut pas, tu sais pas comment c'est, il tape fort, tu sais, il faut pas y aller, ça sert à rien. Et qui me caressait gentiment l'épaule en m'expliquant à quel point, tellement j'étais petite et fragile, ça servait à rien d'y aller. Et que je comprenais pas les enjeux qu'il y avait là-dedans en tant que petite femme. Bon, après, voilà, c'est pas très juste parce que, après, dans la suite, ça s'est arrangé, mais c'est une femme qui est rentrée dans la pièce en hurlant et en disant « on va y aller ». Mais que, quand même, je pense que dans ce truc de... qui est présente ici et qui lève la main. Mais dans ce truc de dire toujours... Enfin, je crois que de toute façon, on va pas pouvoir éviter d'en parler, mais que oui, dans ce milieu, ça va, les hommes font des efforts et tout va bien, et heureusement, et c'est les seuls hommes qu'on peut tolérer, parce que voilà, et parce qu'ils font vraiment des efforts et ils font que ça de leur journée, et que juste, ben... Non. Je crois.
Sur ces anecdotes assez parlantes, je vous propose une petite pause musicale.
Alors, on va écouter Crime Sex des Fœtus Partis.
Pitié pour votre femme, achetez-lui une Brandt.
La puissance industrielle de Brandt vous offre une machine complète à bien laver à un prix sans concurrence, 59 500 francs. Et vous avez la qualité Brandt.
Hey, playboy!
Pour déranger, alors on saute par-dessus les chaises là pour que tout le monde puisse accéder au micro. Et alors peut-être on avait envie de faire un petit intermède théorique, mais avant ce petit intermède théorique, Jules, tu voulais, ça t'avait donné envie de dire quelque chose.
Ouais, en fait ce que j'ai entendu, ça m'a amené à me dire que bon, moi je suis Gwyn depuis que je suis Gwyn, quoi. Enfin, depuis toujours, en fait. Bref, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je me demande, en fait, si c'est pas plus facile d'être Gwyn et féministe que hétéro et féministe, dans le sens où, en fait, pendant on parlait tout à l'heure de la non-mixité et tout ça, et je réfléchissais aussi à mon parcours de féministe et à mon rapport à la non-mixité et tout, et j'ai regardé dans mon portable, en fait, et par rapport au numéro de téléphone de mes potes, et j'ai 90% de Gwyn. Je sais pas, après qu'est-ce qu'il reste, ça fait 10, je suis pas bonne en maths, mais genre 5% de PD féministes, 2% de meufs hétéros, et puis genre 3 mecs hétéros, quoi, en fait. Et donc, d'une certaine manière, je vis dans une espèce de mixité, en fait, enfin même limite Gwyn, quoi, enfin bref. Donc je me demandais, c'était la réflexion que je me faisais, en fait, en écoutant tout ce qui s'est dit, voilà.
Mais tu veux dire comme si finalement le fait d'être toi Gwyn et dans un environnement vachement lesbien et tout, ça fait comme si tu te prenais moins dans la gueule le patriarcat ou du sexisme ou que c'était moins compliqué à gérer dans tes relations, ou que le fait d'être féministe, enfin est-ce que ta question, ou alors c'est pas le fait d'être féministe, finalement ça ne, c'est moins difficile à appliquer dans tes relations affectives, amicales, bah oui, et tout, vu que ce ne sont pas des hommes, en fait.
Ouais, ouais, clairement, même, enfin, je veux dire, quand tu, je sais pas, moi, quand je parle des petites histoires à mes copines, ou je sais pas trop quoi, j'ai pas à leur réexpliquer qu'est-ce que c'est féminisme, et qu'est-ce que c'est Gwyn, parce que c'est des Gwyn, quoi, et, elles sont toutes militantes et tout ça. Après, les moments où j'ai croisé des gars hétéros, ils sont hyper rares, en fait. Enfin, je veux dire, évidemment, si quand je prends le métro et que je regarde un peu les gens, ou si je les regarde de travers ou quoi, je vais me manger un truc dans la gueule. Enfin, je veux dire. Mais finalement, si je fais pas attention à eux, de la part d'une pote à l'autre à part d'une pote, je vis pas dans leur monde. Enfin, c'est-à-dire les mecs hétéros, ils, entre guillemets, j'en ai pas besoin dans ma sexualité ou quoi. Donc du coup, comme il y en a plein qui sont à moitié, enfin, qui sont pas hyper développé, ouvert, ou je sais pas trop quoi, bah du coup, je vais pas vers eux, quoi. Enfin, mais je veux bien en rencontrer, hein, faudrait faire un groupe. Non, je rigole. Je veux bien apprendre à les connaître.
C'est une blague. Et comment tu... Est-ce que tu aurais envie de raconter un peu comment tu articules le féminisme avec une identité de Gwyn, ou comment ça prend forme dans ta tête, quoi.
Je peux peut-être juste parler de mon expérience. Enfin, moi, à la base, quand j'ai commencé à être Gwyn vers... à me dire Gwyn, c'était vers 14 ans. J'étais toute seule dans un patelin, dans le Luberon. Mes seules références, c'était des bouquins de Freud ou des trucs comme ça. Et ça m'a, pendant deux ans, ça n'allait pas du tout, quoi. Enfin, je me disais, bah non, je suis malade. J'ai essayé les mecs et tout ça. Ouais, c'est sympa des fois non. Les meufs, du coup, je me disais que c'était sale et que j'étais malade. Enfin, bref, ça, j'ai failli mal tourner. Et après, je suis allée dans un lycée autogéré. Donc, du coup, toutes les profs meufs étaient féministes. Et, c'est-à-dire, on n'en parlait pas. Enfin. Comment dire, après cette étape-là, où donc du coup j'étais plus à l'aise avec comment je voulais vivre ma sexualité et tout ça, et en rencontrant ces gens, en fait, je me suis rendu compte que j'étais, enfin, que mon gwynisme allait de pair avec le féminisme. Enfin, je veux dire, tu peux pas être gwyn et pas féministe, dans le sens où tu te rends compte que à plein de moments ça marche pas, que à plein de moments t'es lésée, que donc du coup, quand j'ai entendu les premiers, les trucs de Monique Wittig, le corps lesbien et tout ça, en fait, ce que je lisais, je dis pas que, enfin, je l'avais pensé, en fait. Enfin, je veux dire, donc du coup, je suis arrivée par ce biais-là. Et sinon, sur la non-mixité, en fait, au début, je trouvais que c'était pas cool du tout, parce que je trouvais ça hyper radical et tout ça. Et puis, en fait, comme disait. Je ne sais plus qui disait ça, mais j'ai essayé. Et puis voilà, enfin, c'est clair que c'est évident. Et puis même, voilà, je vous disais tout à l'heure, regarde mon portable, je vis dans un monde non mixte, en fait. Enfin, je me suis créé un monde non mixte, en fait. Voilà, c'est tout.
Est-ce qu'il y a des envies de réaction? Ouais.
Mais justement, par rapport à tout ce qui est dit autour de cette table, bah, il apparaît qu'il y a une multitude de féminismes. On l'exprime différemment, ça peut être un féminisme radical ou un féminisme qui remet en cause plutôt les normes de genre, donc ce qu'on attend d'une femme ou d'un homme, ou un féminisme qui remet en cause plutôt les normes de sexe, autrement dit, cette société hétéronormée qui asphyxie les trans, les PD, les Gwyn, et toutes les personnes qui ont une sexualité considérée comme hors norme. Voilà ce que je voulais rajouter.
Alors, ça nous fait rentrer un peu de plein pied dans notre petit intermède théorique que nous avions envie de faire. Brigitte, tu avais envie de nous expliquer les liens entre le patriarcat et le capitalisme.
Disons, pour moi, le patriarcat, enfin, pourquoi être anarchiste et féministe, pour moi, ça va un peu de soi, vu que le capitalisme, il s'appuie sur le patriarcat pour pouvoir exister. Par exemple, on demande aux femmes de travailler gratuitement, par exemple, à la maison, d'avoir des salaires moindres et les emplois souvent les moins cotés par eux. On nous demande de faire des enfants... Pour qu'ils aient des ouvriers, pour qu'ils soient des gens qui consomment, qui puissent continuer à faire fonctionner la machine. Enfin voilà, il y a vraiment une nécessité d'avoir des femmes et des femmes dociles qui vont vraiment répondre à ce qu'ils ont besoin, quoi. Donc d'un autre côté, on nous fait aussi un profil de femme qui va consommer des crèmes, des régimes, etc., etc. Et moi, par exemple, l'histoire qui me vient, enfin ce qui m'est apparu une fois, c'est par exemple du jour où on a accordé la pilule et l'avortement. Et bien, ce jour-là, petit à petit, et c'est le capitalisme, et ce n'est pas le hasard, on a mis l'enfant roi en place. Et d'un seul coup, les femmes se sont trouvées à traîner le mercredi les mouflets au judo, à la chorale, au piano, au machin, au truc, à devoir acheter avec des salaires de misère, à devoir acheter les baskets, je ne sais trop quoi, et tel fringue. Et en fait, c'était une autre façon de nous coincer. De nous coincer, finalement, encore dominés par, mais par le capitalisme. Et pour moi, le patriarcat et le capitalisme, ça va vraiment ensemble, quoi. Et on ne peut pas lutter l'un sans l'autre. Enfin, contre l'un et pas contre l'autre. Pour moi, c'est vraiment lié.
Bah, moi, je dirais aussi que dans cette idée d'anarchisme et de féminisme, c'est aussi l'espèce de complémentarité des systèmes d'oppression et comment tout le monde marche main dans la main. Et que, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser aussi au rôle que l'État il vient prendre là-dessus en entérinant un peu ces choses-là et en instituant, bah voilà, enfin, je pense à l'avortement, puisque c'était notre thématique de la journée, que tout le dispositif juridique et législatif qui vient là-dessus, il entérine aussi ces systèmes d'oppression et qu'en fait, à un moment, on se retrouve dans une situation où c'est pas possible de combattre un sans s'attaquer aux autres, parce que juste faut tout faire péter en même temps. Une opinion personnelle.
Et clairement, pour en revenir à l'avortement, parce que, voilà... de ce que les femmes faisaient entre elles, on nous a demandé de remettre notre corps à la médecine et c'est aussi tout un système de fric qu'il y a derrière ça, quoi. Sans compter que c'est pas les, enfin qu'il y a plein d'autres conditions. Mais c'est encore eux. Et là vraiment, oui, je dis eux, il y a nous. C'est vraiment une histoire de classe. C'est encore eux qui se font du fric sur nous, quoi, et qui nous ont encore dépossédés d'une partie de nos, de notre pouvoir qu'on avait un peu sur nous-mêmes.
En fait, moi, je voulais aussi... parce que, bon, on fait le lien aussi avec les rapports de classe. Et, c'est, en même temps, oui, y a un rapport de domination sur les femmes. Et en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus le dissocier des rapports de classe, du racisme, d'autres rapports de domination. Et je crois aussi que ce n'est pas cumulatif, en fait. C'est-à-dire que quand nous, on s'exprime... Enfin, on est blanches, là, presque toutes... on fait référence en fait à un féminisme, à une culture féministe blanche. Et je pense à ça parce que Audre Lorde, elle explique toujours que, par exemple, aux États-Unis, pour une femme noire, les choses trappes même du... Enfin, à l'encontre des femmes, les choses trappes ne sont pas les mêmes pour les femmes noires que pour les femmes blanches. Je pense qu'en France, c'est la même chose. Enfin, si on est une femme cible de racisme, les choses se présentent différemment. Enfin, c'est... Et que c'est... Voilà, que c'est pas juste une addition, enfin, mais que... Que ces oppressions, elles sont vraiment imbriquées les unes dans les autres. Et que maintenant, enfin, je trouve que c'est difficile maintenant d'être sincèrement féministe et de pas se remettre en question sur son rapport de classe ou son rapport au racisme. Enfin, je crois que le féminisme ne peut pas avancer sans ça.
Nos techniciennes sont enthousiastes de ce que tu viens de dire et donc vont nous, pour fêter ça, on va écouter un petit morceau de musique.
Alors, on va écouter Systematic Death de Harum Scarum.
Back to prison, wait for the chair, and get the hell off this planet full of evil and your corruption in these courtrooms.
Give it to boy, the
Vous êtes toujours en train d'écouter Radio Kaléidoscope sur 97FM. C'est l'émission Dégenrée, une émission féministe. Tous les 15 jours, les 2e et les 4e mercredis de chaque mois, vous nous retrouvez pour qu'on parle de plein de choses passionnantes. Donc ce soir, on est avec plein de féministes en studio pour parler autour des rencontres FFO, Femmes Fuck Off, donc des rencontres féministes radicales. On racontait un peu tout à l'heure quelques idées, comme ça, essayer d'assembler quelques idées théoriques sur les histoires d'anarchisme, de féminisme, le lien, le patriarcat, le capitalisme. Et Hiram, tu avais peut-être envie de dire un truc. Vas-y.
Ouais, plus pratique que théorique, peut-être, ou je sais pas, mais quelque part, pour moi, je sais pas, les anarchas féministes que j'ai pu rencontrer lors des dernières années, c'est ok, c'est un choix politique. De faire des actions politiques contre le capitalisme, le gouvernement ou l'oppression patriarcale, tout ça, mais c'est aussi un choix de survie. C'est aussi que avec y a plein de personnes qui ont moins de 25 ans, donc du coup, pour avoir le RMI, il faut faire des travers pour pouvoir être en concubinage ou quelque chose comme ça. Que voilà quoi, il y a la récup des magasins parce que souvent il y a beaucoup de personnes, enfin voilà, là on est 20, donc on est 20 à manger. Vous imaginez bien qu'on va pas faire les courses à Monoprix pour dépenser 80€ par personne et par jour. Voilà, donc il y a tout ça, il y a tous ces trucs de concrètement comment on fait pour survivre dans cette société. Il y a derrière les supermarchés, il y a les poubelles, il y a souvent les meilleurs fromages de la planète quand même, faut le dire. Voilà, il y a des fois des bières, c'est magique, il faudrait que tout le monde essaye. Voilà, sinon il y a plein d'autres trucs qui sont bien sûr moins légales, voilà. Et heureusement que ça existe, heureusement qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours cachées derrière leur peur pour pouvoir faire survivre d'autres groupes de personnes qui, elles, ont des problèmes avec la justice, peuvent pas se permettre, ou alors je sais pas, qui n'ont pas de papier ou des trucs comme ça, ou qu'on n'a juste pas envie, et c'est aussi possible. Enfin, voilà.
Et, c'est cool, hein, ce que tu dis, Ram, sur comment aussi... c'est pas juste des idées en l'air, quoi, c'est aussi... Ouais. Ça vient aussi de pratiques, ça va vers des pratiques, et tout ça, c'est des allers-retours sans cesse entre qu'est-ce qu'on... comment... les idées, les... Et alors, j'ai envie de passer un peu à autre chose et peut-être à parler de choses un peu moins drôles que comment on arrive à se débrouiller dans la vie et toutes les solidarités. Et parce que malheureusement, dans beaucoup de villes, il se passe des choses assez dures. Et souvent, des femmes vivent des choses assez trash et tout. Et du coup, je me tourne un peu vers Plume et Judith. Vous allez nous raconter une histoire pas... Voilà. Je ne sais pas comment dire, j'attends que vous racontiez votre histoire un peu, que vous vouliez transmettre à la radio ce soir.
Bah en fait, là, il se passe quelque chose d'assez effroyable à Lyon.
Il faut que tu parles plus dans le micro.
Il se passe quelque chose d'assez effroyable à Lyon. Donc, une de nos amies féministes. Et en fait, pour être sûre de dire les choses correctement, avant de venir ici, en fait... on s'est réunis avec elle et on a posé tout ça par écrit. Donc je sais que c'est moins fun pour la radio, mais du coup on préfère lire le récit parce que c'est comme ça on est sûr d'être fidèle au fait quoi.
Il n'y a pas de souci.
Il y a 2 ans, en juin 2006, après une soirée dans une colocation sur Lyon, 8 colocataires, au petit matin, Bolache a cru qu'il pourrait violer en toute impunité une fille qui dormait. Il l'a agressée sexuellement. La fille, que nous nommerons super-héroïne, se réveille en situation de violence sexuelle. Elle hurle, se débat, se dégage, s'arme avec une bouteille et renverse la situation d'agression en poursuivant son agresseur. Précisons que Bolache est professeur de kung-fu dans le milieu alternatif de Lyon, où il est très bien intégré, qu'il fait plus d'1m80, blond, blanc, aux yeux bleus, qu'il a minimum 25 ans à ce moment-là et qu'il habite à 2 pas de la colocation, tandis que super-héroïne est mineure, marron de peau, 1m60, a fait 600 km pour venir à cette fête où presque personne ne la connaît. Les personnes présentes, réveillées par les cris, réagissent en désarmant super-héroïne, en la maîtrisant physiquement à plusieurs et en l'enfermant dans une pièce. Bolache, lui, n'est pas inquiété. Un des colocataires, N, a demandé à ce que Bolache s'en aille, mais il n'a pas été soutenu par les autres colocataires. N arrive à faire sortir Bolache, qui jusque-là était son ami, par la menace d'un cassage de gueule. Mais Bolache décide de revenir au bout de quelques heures. N réexige le départ de Bolache auprès des autres colocataires, en allant jusqu'à menacer de quitter lui-même la colocation. Entre parenthèses, N est le seul prolétaire d'origine prolétaire de la colocation. Mais les colocataires soutiennent Bolache. L'un d'eux, S, va jusqu'à dire « Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas eu pénétration. » Pendant tout ce temps, super-héroïne reste enfermée dans une chambre, et ce, jusqu'à la fin de l'après-midi. Elle finit par sortir de la chambre en fin de journée. C'est à ce moment-là que Y, qui dort régulièrement dans les lieux, arrive prévenu par N, avec juste l'objectif de donner à super-héroïne la clé d'un appartement safe. Précisons que Y est repéré comme féministe dans ce lieu. Plusieurs personnes s'interposent, et ce, dès la porte d'entrée, pour empêcher Y de rencontrer super-héroïne. « Tu n'es pas au courant. Ne viens pas mettre de l'huile sur le feu. Ne viens pas foutre le bordel. On a enfin réussi à la calmer. » Au final, super-héroïne prend la clé et quitte les lieux. La fête a continué. Ainsi, le lendemain, les colocataires et leurs intimes, dont Bolache, décompressaient et riaient ensemble dans le jardin. Bolache a refusé de s'excuser, bien qu'il ait reconnu les faits auprès de Y comme de N. Avec ses mots à lui, cela donne « J'ai voulu lui donner de l'amour, mais il reconnaît qu'elle dormait, qu'elle n'était pas consentante et qu'il n'avait pas tout compris, enfin que ce n'était pas sa faute parce qu'il avait pris du LSD. » 2 ans plus tard, Y a la mauvaise idée de se rendre à une fête queer à Lyon. Pour planter le décor, le DJ est un garçon blanc, il ne donne pas suite à 4 demandes différentes de passer de la musique raï. Il refuse de stopper la diffusion de Love on the Beat de Gainsbourg, bien qu'on lui explique que les cris de femmes qui rythment la chanson sont ceux d'une femme noire qu'on viole sur un capot de voiture, comme on peut le voir dans le clip vidéo. Pour le DJ, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Dans cette fête queer, Bolache pavoise torse nu. Pendant ce temps-là, 2 mecs emmerdent 2 filles qui dansent. Y demande à Bolache de sortir. Il refuse. Elle insiste fermement. Il finit par accepter. Il prend ses affaires et se dirige vers la sortie. Mais plusieurs personnes s'interposent, bien qu'elles soient informées des exploits de Bolache. L'opération « Sauver le violeur » a commencé. Pendant ce temps-là, les 2 mecs lourds sont vidés par des meufs sans que quiconque intervienne. Il faut dire qu'ils n'ont pas d'appui dans le milieu. À 10 mètres de la sortie, une ancienne de la colocation, eux, s'interpose pour défendre Bolache. Pour réduire Y au silence, elle lui met un coup de poing dans l'œil. Bolache est resté. Y a dû partir avec ses amis.
Le lendemain, pendant la manifestation du 8 mars, certaines personnes du milieu ont refusé de dire bonjour à Yamina. N, qui est tout à la fois le compagnon de Y et l'ami de E, laisse un message à eux pour lui demander de présenter ses excuses à Y. Eux rappellent non pas Y pour lui présenter les excuses, mais N pour nier les faits et discréditer Y. Elle avait bu, je ne l'ai même pas touchée, elle cherchait la merde. N la prévient qu'elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle risque un dépôt de plainte. Précisons que E est blanche, la milieu bourgeois, tandis que Y est prolétaire, cible de racisme, et de ce fait a été agressée de nombreuses fois par des blancs en sa jeunesse. C'est pourquoi elle décide de déposer plainte 2 jours plus tard à la police, en l'absence de toute solution alternative, grand silence dans le milieu. Le lendemain du dépôt de plainte, eux, visiblement effrayés par cette mesure, appellent Y pour lui présenter ses excuses, qui sont quelque peu gâchées par ces mots « fourbe », un grand classique d'un blanc à un non-blanc, « menteuse », etc. 2 jours après encore, Y rappelle eux pour accepter le marché qu'elle-même lui avait proposé, que eux se prennent une gifle pour enlever le dépôt de plainte. La réponse d'eux est un éclat de rire et du mépris. Lorsque l'affaire du viol est évoquée devant elle, eux affirment qu'il n'a pas eu viol, que super-héroïne n'était pas bien dans sa tête, bref, fait tout pour la décrédibiliser. Y participe à l'organisation d'une semaine contre le colonialisme. Au concert de soutien, 2 hommes blancs du milieu alterno, qu'elle n'avait jamais vus, Rémi et Gus, viennent mettre en garde Y en lui disant « Toi, tu es wanted ». Rémi prétend avoir tout vu, que n'a pas touché Y, que celle-ci ment, qu'elle a trahi, qu'elle est une fausse militante, et qu'elle n'a plus le droit de mettre un pied au boulot ancien squat de lesbiennes féministes, qu'elle fardisait par des bitards, ni dans aucun des squats d'immilitants. Y est assis alpagué deux fois dans la soirée. Depuis un mois, Y est complètement ostracisé en milieu alterno lyonnais. À ce jour, elle n'y a trouvé le soutien affectif que de quatre personnes, N et trois personnes elles-mêmes peu intégrées dans le milieu. C'est une constante dans le milieu, comme partout, que ces situations d'ostracisme se retournent contre les personnes qui ont subi des violences ou prennent sur elles de dénoncer les violences sur lesquelles le silence est fait. Dans cette affaire se cristallisent tous les rapports domination niée, classe, sociale, racisme, etc. Précisons que, quant à elle, a trouvé un large soutien.
On n'a qu'à faire une pause musicale. On n'a qu'à écouter du punk.
Un truc ok, on va écouter Sleater-Kinney et la chanson Reminder.
Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Donc on est sur la fin de l'émission. On vient d'entendre un récit. J'avais annoncé la couleur, mais je m'y attendais pas moi-même. Je l'avais pas entendu. Donc d'une histoire, abominable et super révoltante de ce qui se passe en ce moment et depuis 2 ans à Lyon. Moi j'ai envie de vous remercier d'amener ce récit et de parler. Parce que j'ai l'impression que la loi, dans ces cas-là, c'est le silence. Et du coup, je trouve ça vraiment bien que des gens réservent à ça aussi, à porter ce récit, peut-être sur quelques ondes et dans quelques oreilles. Et j'avais envie de vous demander un peu, ce texte, est-ce que vous l'avez publié? Est-ce que vous le diffusez? Est-ce qu'il a, quelle vocation il a? Comment, est-ce que ce, là donc l'histoire de Y qui a l'air d'être sacrément isolée, comment, est-ce qu'il y a des personnes qui se mobilisent autour d'elle? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, pour l'instant, Y est encore très isolé sur Lyon. Donc l'idée là, c'est, avec ce texte, c'est déjà d'essayer de le faire circuler, que ce soit par les réseaux internet ou d'autres. On a aussi envie d'en discuter avec des groupes féministes au cours des rencontres, en particulier parce qu'il y a besoin de solidarité sur Lyon, mais aussi parce que ce genre de choses se reproduit tout le temps, et même pas que dans le milieu anard. Enfin, quelque chose du même genre s'est produit aux UEH cet été. Je crois qu'il y a eu quelque chose à Grenoble, il y a eu quelque chose à Nancy. Enfin, et donc voilà, donc évidemment, on a envie d'en discuter avec Femme Fuck Off. Il va y avoir une rencontre résistante à la fin du mois d'avril, où on veut aussi parler de ça. Enfin voilà, on a décidé de, en tout cas, de pas laisser le silence là-dessus, d'essayer de, on appelle à soutien et à solidarité parce que elle est souvent isolée. Enfin moi, je trouve ça inadmissible qu'elle puisse plus mettre les pieds dans une fête queer ou féministe queer ou je sais pas quoi. C'est hyper choquant, quoi. Et je pense que là, c'est clair qu'elle ne peut pas, elle, toute seule, aller au casse-pipe. Mais je sais pas, qu'il y ait des gens qui parlent à ces personnes pour leur faire entendre raison. Je sais pas, moi. Mais... Enfin, je sais pas ce qu'on peut inventer. Voilà, on est en recherche, là.
En tout cas, je trouve qu'en général, plus les choses sont dénoncées, enfin, plus tout au moins les personnes qui vivent ou qui entendent disent, en parlent et dénoncent avec des prénoms, les noms, enfin... dénoncent les personnes qui ont fait ça et qui... voilà, je pense qu'il y a un moment, chaque personne qui voudra... je sais pas, moi, comment c'était dit, là bon, voilà, qui voudra tenter d'avoir un rapport quelconque, que ce soit avec une femme, peut-être il réfléchira avant en se disant qu'il y aura beaucoup de conséquences. Et je pense que plus il y aura de conséquences, moins il y aura de... Comment ça se fera.
Ouais, moi je voulais rajouter, en fait ça me questionne parce que c'est pas la première fois malheureusement que j'entends des histoires comme ça dans d'autres registres, mais ce que je trouve hallucinant, c'est dans ce milieu-là, normalement on devrait avoir nos propres moyens pour gérer, on devrait gérer ces situations avec intelligence et on est censé avoir réfléchi sur des, voilà, des modes de pression, quoi. Enfin, je veux dire, genre c'est la jungle, quoi. Et moi ce qui m'intéresserait, voilà, ce serait essayer de voir comment est-ce que, enfin, réfléchir sur comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour apprendre à gérer ces crises-là avec nos moyens à nous et pas, enfin, maintenant elle a eu besoin de d'avoir recours aux flics, en fait, enfin, pour valider le truc, la plainte, et en plus ça l'a mis dans la merde, quoi. Voilà, donc en fait je crois que ça serait bien de réfléchir à un groupe de réflexion, je sais pas trop, enfin, sur ce truc-là, quoi. Nos stratégies de gestion des conflits, quoi. Enfin, parce que apparemment il y en a plein, ça se reproduit à plein de moments, dans diverses occasions, et c'est hallucinant, quoi, qu'on n'ait pas d'autres stratégies, voilà.
Moi j'avais le lynchage.
Ça me fait penser à une copine féministe qui me disait au début de semaine que, bon, souvent, voilà, si on n'ose pas faire des appels à lynchage, et finalement, elle disait, finalement, on est bien sympa. Ouais. On nous reproche beaucoup d'ouvrir notre gueule, de parler. On nous reproche déjà de parler et d'ouvrir notre gueule, mais en fait, on est déjà bien sympa. Et j'aimais bien qu'elle dise ça. Et voilà, et moi, je trouve, ce que je trouve hallucinant dans toutes ces histoires-là, et on pourrait vous en raconter des milliards, mais là, on est à 4 minutes de la fin de l'émission, donc voilà, c'est qu'il y a une forte répression, justement, à partir du moment où on parle, à partir du moment où on ouvre sa gueule et où on dit « il s'est passé ça, là, ça ne va pas ce qui s'est passé », effectivement, on subit une répression. Et je trouve ça assez hallucinant. Par rapport à ce que tu disais sur des groupes qui réfléchissent à ces situations de violence et tout, ça me donne envie de parler à Grenoble. Il y a les Enrageuses, qui est un groupe qui s'est monté il y a un petit bout de temps maintenant et qui travaille justement autour de la gestion, enfin de la réflexion autour de comment on gère, notamment dans ce milieu, les questions des violences faites aux femmes, faites aux lesbiennes, faites aux trans. Et voilà, donc elles ont une adresse que j'ai qu'à donner, c'est enrageuse@pimienta.org. Et alors, si ça marche pas, cette adresse, parce que je me suis trompée, vous avez qu'à écrire à Dégenré. Donc, j'ai qu'à donner l'adresse de Dégenré. Dégenré, c'est dégenré@boum.org pour si vous avez envie d'infos, de contacts, de trucs. Si là, tout ce qu'on raconte, ça vous crée quelque chose. Et enfin, on peut être le point de passage d'infos. Voilà, on peut filer des contacts, on peut... Voilà, ou si l'histoire de Y vous fait quelque chose et que vous avez envie de réagir, ça peut passer par nous. Enfin, voilà, vous pouvez nous écrire. Ouais. Et alors, juste donc, pour finir l'émission, on avait peut-être envie quand même de parler des projets, de l'avenir, des formidables projets qu'on a dans la vie, parce qu'on va faire des trucs super. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui voudrait nous parler des projets de caravane ?
Bah ouais, a priori, au mois d'août, on n'a pas encore défini dans quel secteur. Apparemment, ce serait plutôt la France quand même. Hein. Mais dans quel secteur de la France ? Et voilà, et plutôt sur un thème qui serait les plaisirs, les formes de plaisir. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est une caravane de rencontres pour lesbiennes, forcément. Enfin, voilà, je voulais bien que ce ne soit pas forcément associé. Mais aussi, hein.
Ok, donc si vous voulez plus d'infos sur cette caravane, je crois qu'elle est vraiment en construction. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus précis que ça. Pareil, vous pouvez écrire à Dégenré. Voilà. Et on se retrouve dans 15... On va finir l'émission. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de dire un dernier truc ? Ou on a déjà dit beaucoup de choses ? Je sais pas.
C'est super dur de rester à 12 dans 3 mètres carrés.
On a très très chaud. Alors, on vous retrouve dans 15 jours. Ça fera le
359e épisode.
Le 23 avril. Le 23 avril, avec une émission sur la science-fiction. Voilà, dans 15 jours. Bonne soirée à vous. Merci à toutes celles qui sont venues ce soir pour parler et tout. Et salut.
Et on va écouter un dernier petit morceau des Revengers. On avait construit un chapiteau de bois, on y faisait de la musique, on y échangeait des pratiques et des idées. On avait trouvé une maison inhabitée, on l'a occupée et colorée. Ça t'a pas plu, tu nous as expulsés. Respectable, d'avoir un travail salarié, de payer un loyer. Là où je posais Stéphane dans tes papiers, t'as coupé les fonds. Sans pognon, ils m'ont licencié. Et t'as tout détruit, 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 t'as tout détruit, et t'as tout détruit, t'as tout détruit. Et de la NPE, j'ai pas pu payer mon loyer. Le propriétaire m'a envoyé les huissiers, t'as payé tes flics.